Mais avant cela, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe du côté des revues. Nous le faisons aujourd'hui avec vous, Alexis Broca, du magazine littéraire Grand Dumasien devant l'Éternel, j'imagine. Bonjour, vous allez nous le dire, Claude. En tout cas, bonjour.
Oui, bien sûr, comme tous les lecteurs français, tous les jeunes lecteurs français, j'ai lu Les Trois Mousquetaires dans ma jeunesse, j'ai lu et relu Monte Cristo plus tard, et j'étais très intéressé par ce que vous disiez sur le manque d'intérêt des romanciers français contemporains pour Dumas à cause de cette question de la narration. Et c'est vrai que je la retrouve pas chez les auteurs étrangers qui, eux, ont peut-être plus d'attachement à cette dimension première de la littérature. Je pense notamment à quelqu'un comme Arturo Pérez Reverte, qui est un excellent romancier espagnol contemporain, qui a écrit toute une série qui s'appelle Le Capitaine à la Triste, qui est, il l'a dit à certains moments, qui était vraiment ses Trois Mousquetaires à lui, et puis qui, dans La Reine du Sud, alors là, reprend le mythe de Monte Cristo et reprend toute l'histoire de l'incarcération d'Edmond Dantès pour la réécrire. Et il y a notamment un personnage qui s'appelle O'Farrell, comme l'abbé Faria, et pour intégrer ça, en fait, une intrigue très moderne qui a plus trait à la mythologie, une autre mythologie, celle du film Scarface, par exemple, qu'à la littérature. Mais en tout cas, il y a des grands amateurs et des continuateurs de Dumas au-delà de nos frontières.
Voilà. Alors, de Dumas, il a été beaucoup question dans le magazine littéraire par le passé.
C'est vrai, avec Claude Chope, notamment.
À l'avenir également, oui, avec la signature de Claude Chope. Mais c'est de Spinoza dont vous avez constitué le dossier du numéro de novembre.
Voilà, je vais vous parler du dossier Spinoza, qui est vraiment le gros morceau de notre numéro de novembre. Alors, c'est un dossier un peu particulier, parce qu'en fait, il se fonde sur un projet au long cours qui est mené par un de nos collaborateurs, Maxime Revert. Maxime Revert, qui est un philosophe spécialiste de Spinoza, a travaillé pendant des années un grand livre sur Spinoza. Ce livre est paru, il s'appelle Le Clan Spinoza. Il est à la croisée de l'essai, du roman et de la biographie. Et notre dossier, est un peu le reflet journalistique de ce texte, en ce sens qu'il montre que Spinoza n'a pas pensé tout seul et n'a pas innové en pensée tout seul, qu'il est aussi le produit d'un contexte. Et il montre que les éclairs d'intelligence de Spinoza surgissent de frottements avec d'autres intelligences, avec le monde tel qu'il était à son époque, avec des écrits. Enfin bref, il montre Spinoza comme une affaire collective, en quelque sorte. Et il nous parle notamment, alors le dossier parle notamment de la Nassau, qui était la communauté juive d'origine ibérique installée à Amsterdam. Ces juifs qui avaient été forcés de se convertir, qui avaient continué à judaïser en secret et qui sont partis pour les Provinces-Unies à Amsterdam pour pratiquer leur religion librement. Il parle aussi du bouillonnement de la pensée athée de l'époque, puisque on le sait peu, mais à l'époque, l'athéisme, en fait, le terme athée était très fort. Il désignait vraiment quelqu'un sans foi ni loi, qui, parce qu'il ne croyait pas en Dieu, n'avait pas de morale. En fait, il y avait tout un courant de textes et de pensées qui identifiaient Dieu à la nature et qui refusaient l'idée d'un Dieu créateur grand juge. Le dossier parle aussi du cercle des collégiens, qui sont ces chrétiens dissidents, anticonfessionnels, au milieu desquels Spinoza a beaucoup frayé, il a connu beaucoup d'amis. Il parle de Sténon, qui a fait, lui, un trajet complètement inverse à la plupart de ses penseurs, puisque Sténon, c'est un médecin qui travaillait sur les dissections et qui est parti en fait de la science pour arriver à la religion. Bref, on fait une sorte de tour du monde de Spinoza pour montrer ce que sa pensée doit à l'extérieur, en fait.
Et puis, dans une autre partie, Alexis, vous vous penchez davantage cette fois sur l'actualité de la pensée de Spinoza. Il y a pas mal de choses de ce côté-là.
Oui, en effet, parce que Spinoza se retrouve aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé avant, d'ailleurs, il se trouve au centre du jeu philosophique, d'abord par sa conception d'un dieu non transcendant et immanent qui s'identifie à la nature. Enfin, je vous dis, il sort de la vision paternaliste du dieu créateur, vengeur et garant de la justice. Et en rejetant en fait toute transcendance, Spinoza nous permet de penser qu'il n'y a pas de loi ou de règles dans la nature, sinon celles qui sont définies par les événements. Et c'est comme ça que, adossé à Spinoza, Gilles Deleuze a pu encourager les philosophes à étudier ce qu'il appelle les plans d'immanence qui régissent le réel et qui sont constitués de dimensions hétérogènes. Et en fait, cette idée nous incite à ne pas évaluer les choses et les êtres du dehors, et donc à rejeter toute norme qu'on ne pourrait pas déduire de la nature même de la chose. En gros, c'est une ouverture vers la pensée libertaire. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a aussi une question de forme qui est passionnante, puisque l'éthique, en fait, est un ouvrage qui ne cesse de se référer à lui-même, à ses propres définitions, à ses propres axiomes. Bref, c'est un ouvrage plein d'hypertextes. Et les spinozistes l'ont tout de suite mis sur Internet. Il y a des versions Internet de l'éthique. C'est très curieux, on dirait que l'éthique a été conçue pour ce média. Voilà.
Bon, peut-être.
Peut-être, en effet. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur les diverses famille de penseurs spinozistes, mais je ne vais pas toutes les lister, elles sont très nombreuses, vous les trouvez toutes dans le magazine littéraire de novembre.
Merci beaucoup, à très bientôt Alexis Broca.
Merci Mathieu.